Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes. Une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Il y a deux semaines, nous recevions ici, dans ce studio de la rue de la Salie à Toulouse, Gérard Zucchetto. Gérard Zucchetto, l'éditeur de Troubabox, le festivalier et le poète, ainsi que le spécialiste mondial de la littérature des troubadours. Alors, Gérard Zucchetto vient de produire un nouveau CD, ces éditions Troubavox, qui sont d'une richesse absolument époustouflante. Il s'agit d'un CD qui est né pendant cette période de confinement. Il s'appelle tout simplement Embarazz, ça veut dire confiné. La primo incluso, le printemps clos. Alors on va retrouver là Sandra Hurtado Ross. On va retrouver Vicente Pradal, Jean-Michel, Juan Miguel Hernandez, Claire Manson, Roger Pouli, Raphaël Pradal au piano. Donc un très beau CD que nous n'avons pas eu le temps de vous faire écouter lors de l'entretien que nous avons eu avec Gérard Zucchetto. Alors, je vais réparer ce manque immédiatement en vous faisant écouter deux choses. Un premier morceau du grand poète occitan Max Rouquette, et le chant est de Sandra Hurtado Ross, et au violoncelle c'est Claire Masson, et c'est Max Rouquette qui s'est traduit également le chant de la bruyère. Je vous dis cette traduction avant que vous écoutiez. Sur la bruyère humide de l'aube, chante les corps, tu dois mourir, et la bruyère à verte robe a frissonné comme à l'automne. D'une fuite encore frémissante, rose de l'émoi du matin, au crépuscule ensanglanté, chante toujours vert, jamais moissonné, consolatrice de l'abeille, perdue dans l'octobre glacé, dernière grappe de la treille, qui de l'année fleurit le toit. Dernier dimanche d'automne, bruyère du soir, songe clair, du soleil là et qui se couche, tu bois le sang, simple et muette, de toute vie cachée en toi, dernier regard de qui s'efface. On écoute Max Rouquette.
Dau sulle ilave che sei.
Le deuxième morceau de ce CD de Trobavox, Confiné, le printemps clos, de Gérard Zucchetto, c'est justement un poème de Gérard Zucchetto mis en musique avec des improvisations à l'oud de Thierry Di Filippo. De quoi s'agit-il? Soche un paese, je connais un pays, alors voici la traduction française, je connais un pays où la mer n'est plus la mer, notre mère n'est plus notre mère, elle n'est plus avec nous, elle n'est plus avec vous. Elle porte des bateaux noirs, la mer, tas de ferrailles rouillées, il y a des hommes à l'intérieur et des femmes qui pleurent, et les enfants sont désespérés de ne pas voir la terre à l'horizon. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu les chansons des pêcheurs qui ont illuminé ce bel horizon où il y avait les voiles blanches, perçant le brouillard du matin, pleines d'espoir d'une pêche miraculeuse. Je suis de ce pays où les hommes n'ont plus conscience d'être des hommes fraternels et bienveillants. Je suis de ce pays et j'ai honte pour demain, tous confinés dans nos jardins, dans nos maisons, dans notre esprit. Demain, ou peut-être aujourd'hui. On l'écoute.
So che un paese dove il mare non è più il mare, la madre nostra non è più nostra madre, lei non è più con noi, lei non è più con voi. Lei porta navi nere, il mare, navi e rotami arrugginiti, dentro ci sono uomini e bambini che piangono e le donne sono disperate di non vedere terra all'orizzonte. Molto tempo fa che non ho sentito canzoni pescatori illuminando questo bello orizzonte, dove c'erano le vele bianche perforando la nebbia del mattino, piene di speranza di una pesca miracolosa. Io sono di questo paese dove gli uomini non hanno più consapevolezza di essere uomini fraterne e benevolle. Io sono di questo paese e mi vergogno per domani, tutti confinati nei nostri giardini, nelle nostre case, nella nostra mente. Domani, o forse oggi.
Voilà, c'était la voix, bien entendu, de Gérard Zucchetto. Je vais consacrer cette émission, je voulais, dans ma lancée, reparler de J'aime Sacré que nous avons écouté la semaine dernière, que nous écouterons la semaine prochaine, mais qui a une œuvre tellement riche, il me semblait qu'une troisième émission aussi m'apparaissait comme indispensable pour faire connaître cette grande voix de la poésie du XXIe siècle. Mais ce faisant, il y a beaucoup de poètes qui attendent, et c'est normal, de pouvoir aussi être mis en valeur dans leurs publications. Et des grandes voix de la poésie, contrairement à ce que l'on peut écouter de ci, de là, ce n'est pas ce qui manque. Il y a de très belles voix dans la poésie contemporaine, et des voix de poésie qui sont pleines de sens, dont celle de Joël Vernet. Alors Joël Vernet, c'est peut-être une des voix qui personnellement me touche le plus actuellement. Joël Vernet, la dernière fois que nous avons parlé de lui, c'était pour La nuit n'éteint jamais nos songes. Ça avait paru à Lettres vives, c'est d'ailleurs cette année, en 2021. Je voudrais maintenant vous faire entendre des extraits d'un très très beau livre, un livre, j'ose le dire, un livre qui m'a bouleversé. Il s'agit d'un livre qui vient de paraître à La Rumeur Libre, éditions La Rumeur Libre. Il s'agit de Marcher et ma plus belle façon de vivre, notes éparses, de Joël Vernet. Alors ce livre, c'est aussi le condensé de le rassemblement donc de plusieurs ouvrages qui avaient paru une première fois. Ça avait paru en 2008, c'était aux éditions La Part des Anges. Il y avait des peintures là, de Jean-Gilles Bader, que l'on retrouve souvent dans l'œuvre de Joël Vernet. Et puis c'est les éditions L'Escampette également qui avaient fait paraître Marcher est ma plus belle façon de vivre. Alors ces notes éparses qui sont vraiment, comment dirais-je, un peu dans le ton de Christian Bobin, des textes très courts et à la fois un texte plus long, je vais vous en parler tout à l'heure, qui donne vraiment le caractère de ce qu'est la poésie maintenant en 2021. Rapidement, s'il en est besoin, rappelons que Joël Vernet est né dans un petit village aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère. Il est né dans un petit village, comme d'ailleurs J'aime Sacré aussi est né dans ce petit village de la Vendée. Et Joël Vernet, dès les années 70, entreprend plusieurs voyages. Alors, comme J'aime Sacré, décidément, souvent la vie des poètes a de grands rassemblements, des choses que l'on trouve un peu similaires dans les modes de vie. Donc Joël Vernet, c'est un voyageur aussi, et ses voyages le conduisent aux quatre coins du monde, alors en Afrique, notamment au Mali. Et au fil de nombreux ouvrages, ces ouvrages qui sont publiés la plupart du temps chez l'éditeur Lettres Vives, ou bien Fata Morgana, ou La Part des Anges, Le Temps qui fait, L'Escampette, Joël Vernet, il va développer un style qui lui est propre. C'est ce style que je vais vous faire entendre aujourd'hui, ce style qui est, à mon avis, significatif de ce qu'est un poète en 2021. C'est entre la poésie et le journal de voyage, mais attention, le journal de voyage comme seul pourrait le tenir un poète. Et Joël Vernet célèbre dans ses livres à la fois le minuscule et l'immense, le proche et le lointain. Il travaille par ailleurs avec des photographes comme Bernard Plossu, des peintres en particulier, Jean-Gilles Bader, donc l'on retrouve dans ses publications. Il faut signaler également que Joël Vernet a vécu 2 ans à Alep, en Syrie, quand on sait ce qui est devenu Alep maintenant. Alors je vais vous faire entendre cette voix qui, je vous dis, est la voix d'un poète de 2021. Je vais tout d'abord commencer. Ce livre se décompose en plusieurs parties. Il y en a 4. Le premier, c'est Lettres aux voyageurs immobiles. La deuxième partie, c'est l'homme désaffecté. Et puis, la troisième, c'est la lumière de ta personne. Et enfin, on finit par une partie beaucoup plus large d'une prose très étendue. C'est la lumière dans les arbres. Mais je vais vous faire entendre in extenso l'être au voyageur immobile. C'est un peu le portrait de Joël Vernet que vous allez entendre. Vous savez comment je vis, d'instinct. Vous savez comment j'écris, de souffrance et de joie. Mais vous ne savez rien de moi. Le hasard a porté notre rencontre car j'ai dû faire bien des détours pour arriver ici, dans cet endroit désert de la Sardaigne, où depuis des années, j'installe mon campement à deux pas de la mer, sous les arbres. La nuit, les sangliers rôdent autour de ma tente, et j'écris le soir, face à la mer qui me brûle les yeux. J'écris, sur les rochers, grâce à une petite lampe que la joie m'a donnée. Vous dire cette chose simple, l'été aide le feu du langage, et j'aime l'ombre des barques sur les vagues. Depuis plus de 20 ans, ma vie s'est jouée au dehors, sous le soleil. L'Afrique, le sud de l'Europe, les terrasses blanches et leurs étoiles, notre parchemin éphémère, les rochers nus de cet endroit de l'île, cette sorte de silence des pierres, ce visage face à la mer que je salue et que le temps érode. Pierre, qu'aurait pu sculpter Giacometti, et que je nomme la tête qui penche. La tête qui penche fait allusion, bien sûr, à cette statue de Giacometti, l'homme qui penche, titre qui avait été repris également par notre bien regretté Thierry Metz. C'est un petit signe dans l'éternité, et lorsque nous ne serons plus là, il y aura toujours ce sourire si grave au-dessus des choses, cette patience inébranlable. Nous ne pourrons descendre plus bas pour atteindre la vie nue, toucher le fond de l'abîme. Vous racontez une journée ici, semblable à d'autres journées passées ensemble sur le plateau d'Ogon, sur les bords du Niger, dans cette ville que nous aimons tant et qui pourrait être la ville du dernier voyage. Nous pourrions pleurer, en effet, de la merveille de notre vie. Dans ces jours, je rassemble les bonheurs d'autres journées, j'efface tous leurs effrois comme l'écolier lacré sur l'ardoise. Le voyage est un mouvement dans l'espace, rien de plus. Nous l'aimons pour cela, pour la beauté des paysages, pour les regards qu'il nous permet de croiser n'importe où sur la terre. Nous l'aimons pour la vie profonde qu'il nous offre, mais le voyage aussi, c'est se tenir dans le silence d'une chambre quand le monde vient hurler derrière ses murs. J'ai traversé la Corse, vu la mer et les montagnes, dormi chez des amis sous les étoiles de leur maison, car j'avais pour lit une terrasse magnifique. Comme à l'accoutumée, nous avons parlé beaucoup, sans doute beaucoup trop. Nous avons mangé des fruits, bu du vin épais, ce vin que j'aime tant pour l'ivresse légère qu'il me donne. Il y avait des enfants. Je me sens libre parmi eux, car je me sens l'un des leurs, vraiment. J'aime en effet la beauté de la vie qu'ils découvrent. Ils nous offrent leurs gestes, la justesse insouciante de leurs propos, leurs promenades buissonnières et leurs yeux merveilleux du matin. Je sais, l'on m'opposera 1000 arguments à cette passion pour l'enfance, mais qu'importe, puisque son sang bat dans mes veines. Qu'importe que d'autres pensent à contrario que l'enfance est un poids, un obstacle. Qu'importe, puisqu'elle est ma lumière, cette lampe des barques que je devine un peu partout dans le monde, cette vie qu'on ne peut empêcher, ce rire de l'enfance contre la mort, ce rire qui n'entrera jamais dans le combat douloureux des adultes. Oui, la douleur est dans chaque maison. Vous savez cela aussi pour en avoir vécu l'épreuve. Un jour, nos yeux se ferment sur la beauté des choses. On m'a donné des feux éteints, plusieurs morts dans ma maison. Ce cher frère dont je vous ai souvent parlé, eh bien, au lieu de maudire le monde, d'en finir avec une balle, j'ai soufflé à nouveau sur les braises et j'ai repris la route qui n'est rien d'autre qu'un chemin infini. Un soir, je parlais avec l'amie très chère, une sœur en esprit, une femme qui sait offrir leur chance à deux tout petits livres magnifiques, leur ouvrant la voie de l'impossible, la voie qu'empruntent les audacieux. Nous parlions sur une terrasse ouverte sur le monde. J'étais bien, j'étais en paix. L'écriture n'était plus mon souci. La vie redoublait de puissance dans les mots qui montaient vers le ciel. Elle me dit, comme ça, au détour d'un rire, « Tu ne lis pas, tu n'écris pas ?»« Qu'importe, qu'importe » avait-elle deviné toute l'étendue de ma paresse. Ma pensée allait vers ce campement qu'il me faudrait installer dans les bois au nord de la Sardaigne. Je regardais aussi le si beau rire de ses yeux qui fait des livres une aventure. Puis, les mots sont partis, allant plonger dans le sommeil. Dans quelques jours, j'aurai 43 ans. J'ai donc glissé sur l'autre versant où la vie file si vite, entre nos doigts. Mais qu'importe l'âge, qu'importe le temps, j'ai écrit quelques livres. J'ai cherché ma vie et au bout de longs voyages, j'ai commis de petits travaux pour survivre, mais je leur ai toujours préféré la vie vagabonde. Trop souvent, je n'ai pas su aimer et j'ai reçu des coups. Mais mon nom a su rester invisible, c'est-à-dire silencieux. J'aime à mourir ce silence des choses que l'on trouve dans les heures de solitude, sur des chemins à l'abandon, dans le vol anodin d'un oiseau. Mon bonheur est grand lorsque je dresse un bivouac, allume un feu, construis le mur d'une maison et que j'entends à mes pieds la voix chantante d'un enfant. Mais aussi mon bonheur est immense lorsque je ne fais rien, strictement rien, que je regarde courir la vie changeante. Les enfants sont nombreux autour de moi. J'aime dessiner avec eux quelques pistes pour l'avenir, savoir entendre le chant d'un oiseau, savoir marcher longtemps sur les rochers, entre la terre et la mer, savoir accepter, en somme, tout ce qui nous manque, l'eau et le pain parfois, la joie qui n'est pas tous les jours à la table. Mais les enfants n'écoutent guère, et j'aime leur sage révolte. Ils n'entrent pas dans nos calculs et leur rire fuse sous les arbres tandis que je coupe des branches pour le feu. Afin de vous écrire, je me suis assis sous les arbres. J'aime écrire ainsi dans l'air du dehors et je saisis aujourd'hui que je n'ai jamais possédé de pièce, de chambre véritable destinée à l'écriture. J'ai toujours écrit n'importe où. Chambre d'amis, chambre de passage, cuisine sombre, cuisine claire, terrasse ouvrant sur l'azur. Il y a quelques livres posés près de cette lettre, sous l'encre noire de ces carnets, tous livres de poètes, de sourciers. Je n'ai vraiment aucune passion pour la vie littéraire. Les pages annuelles des romans. Je n'aime que le feu des livres brûlés, des livres brûlants, le feu des pages insoumises. Je sais partager avec vous cette même passion. Nous travaillons dans le secret pour d'autres âmes invisibles et nous sommes bien des sortes de dieux sans ambition, des dieux œuvrant pour la vie passagère, la vie éphémère. Maintenant, le vent arrive en force de la mer. J'entends le bruit d'un avion, le craquement des branches, les sons de voix lointaines, presque inaudibles. Je pense à la vie, sa vérité ne tolérant guère le mensonge. l'ombre de l'arbre acquiesce. Je vais m'arrêter de vous écrire durant quelques heures qui dureront peut-être des siècles. Je vais aller dormir sous la fraîcheur des rochers ou bien marcher près de la mer, emportant avec moi la beauté de votre visage si grave. Plus tard, si j'en ai la force, je reprendrai cette lettre. En sa compagnie, je retournerai dans cette ville d'Afrique, à sa périphérie, où vous peignez sans relâche la vie glissant sous nos yeux. Les pierres sont des souvenirs comme les mots qu'elles engendrent. Hier soir, je suis allé marcher sur les rochers avec une enfant belle comme le jour. De sa bouche jaillissent des mots frais comme l'eau d'une source. Elle aime la mer, la nature, la vie sauvage. Elle n'est pas mon enfant, mais je la prends pour telle. Puis elle est allée rejoindre le sommeil d'autres enfants. J'ai dormi sur les rochers contre lesquels venaient se fracasser les vagues. Avant la tombée de la nuit, une mouette a plané longuement au-dessus de moi, si belle, si majestueuse. Elle m'observait, immobile dans les airs, portée par le vent, baissant puis relevant son cou frêle. Ensuite, elle s'est posée sur la mer. Elle était comme un signe, un geste fraternel. J'étais là, au bord du monde, avec mes petits carnets, inconnus, radieux. J'avais pour compagnie un oiseau et je m'imaginais quelques frères en Europe, tous voyageurs immobiles. Ma vie est un théâtre où se sont joués tous les drames, mais j'ignore qui je suis, où je vais. C'est dans cet abandon que j'écris, que je vis. Parfois, je me sens trop loin des autres hommes. Un temps, car c'était l'orage dans ma vie, j'ai pensé qu'il en était fini, des mots sur la page, que tout art n'était que pur mensonge. Puis quelques livres sont nés au cœur de ce gâchis qui maculait au mur infranchissable. Les livres naissent bien avant l'écriture, c'est certitude. Je vivais alors dans le nord du Mali. Des phrases montaient en moi que je ne retenais pas. Mais c'était plutôt un chant, des psalmodies. Mes petits livres dansaient déjà autour des feux. Ils venaient lentement sous ma main, puis repartaient vers un désert plus grand. Me fascinait cet étrange théâtre dont je mesurais si mal la portée. J'habitais chez un homme qui eût pu être mon père. J'avais pour maison sa terrasse et pour toi des étoiles. Cet homme était l'oncle d'un ami, d'un frère. Tous les dés étaient jetés autour des lampes lorsque nous conversions avec des nomades de passage à la maison. J'aimais mes carnets recouverts de poussière, la fragilité de leurs pages de chacun de mes jours. J'aimais déjà ce qui allait surgir plus tard, presque à mon insu. J'aimais cette vie aventureuse, les rencontres qu'elle me procurait. Aujourd'hui, je suis allé jusqu'à la mer. J'étais seul dans les rochers. Des mouettes dansaient au-dessus des eaux. De petits poissons survivaient dans le trou d'un rocher. Ce fut une journée comparable aux autres, une journée sans histoire, sans personnage singulier, banal et merveilleuse. Banal, car je n'ai rien vécu d'extraordinaire. Merveilleuse, car j'étais vivant dans ce jour. Le soleil était haut dans le ciel lorsque je rejoignis le campement. Le carnet bleu brillait sur la terre ocre parmi les branches, les écorces. Une lumière rare attiser chaque page sur lesquelles une main déjà avait tracé des signes. Je voulais abandonner ce carnet au fond des bois, le mettre en terre, le brûler. Ou bien je l'emporterais avec moi. Il deviendrait un livre pour empêcher le sommeil du visage inconnu, du visage d'un lecteur. D'ici, dans le feu de l'été, vous parlez de la langue, de l'aventure des mots. Ils sont libres, les mots, ils n'admettent aucune injonction, ils se méfient de la littérature. Bien sûr, ils se reconnaissent quelques frères le soir, au coin des feux. Ils forent la montagne du langage. Ils sont notre trace terrestre, notre imprudence. Ils ont le mystère pour origine, mais aussi l'épaisseur des conversations de la vie ordinaire. Ils sont le bien de tous. Mais quelques-uns les embellissent par une sorte de grâce. Les mots sont notre souffle, et seule la mort saura éteindre ce feu allumé par l'amour. Pardonnez-moi si j'interromps un instant cette lettre, mais j'entends les sabots des chevaux sur la piste. Les chevaux sont l'orage, la tempête dans les livres, comprenez-moi. Les chevaux viennent boire dans nos mains, caresser nos museaux. Récemment, dans l'île où vit la chère amie, le réel m'a offert une merveilleuse image qui pourrait clore cette lettre, refermer les portes de cette histoire. Autour de la bâtisse immense, il y a un parc, des vergers, l'infini du ciel, une poignée de chevaux sur le déclin, mais dont s'occupent avec grande affection des jeunes filles. Le soir, après la retombée de la chaleur, l'enfant prend un cheval et le monte. Puis, la promenade achevée, le cheval est lavé à grande eau. Tout autour, la nature est éblouissante avec ses fruits multiples. La lumière dessine comme une brume légère à l'horizon. J'observais le pelage luisant du cheval et le visage très beau du petit enfant qui le regardait avec admiration. L'enfant pour lequel les mots ne sont jamais une évidence. Puis l'enfant regagna la maison et disparut sous le porche après nous avoir fait signe. Le carnet traîne parmi les feuilles mortes, les feuilles séchées par le soleil, les feuilles sublimes qui font un lit aux animaux. Mais peut-on encore transcrire le livre de la nature, espérant toucher ainsi à une sorte d'éternité ou d'innocence? Les mots se mélanger aux feuilles, et j'aimais cela, ce retour vers la terre, ce retour du souffle aux entrailles. Qui n'a jamais entendu le bruit des vagues ne connaît rien des bruits du monde. Je voudrais disperser cette phrase, ces bribes dans l'azur, achever ainsi cette lettre, l'offrir à quelques-uns, l'offrir aux mendiants, aux lecteurs, aux orphelins, aux gens de toutes sortes qui font barrage contre la mort. Offrir en pâture ses carnets aux oiseaux. Voilà. Ça a été écrit dans les bois de Portoferro, dans l'été 1997, par Joël Vernet, qui était alors âgé de 44 ans. Voilà. Alors, ces bribes de phrases dans la nature et cette lettre, ben nous l'offrons aussi, donc par le truchement de cette lecture aux auditeurs de Radio Occitanie et à ces internautes de notre site lespoètes.site qu'anime notre ami Claude Bretagne. Alors, vous avez vu cette prose où il dit beaucoup de choses, d'abord sur lui-même. On voit qu'il habite vraiment le monde en poète, hein, Joël Vernet, mais vraiment, il va, là, il pousse les choses un peu loin, puisque c'est un vrai voyageur il vit simplement pour le voyage et pour que le voyage puisse s'imbriquer au poème, c'est-à-dire que le voyage naisse le poème et que le poème également fasse naître le voyage. Il parle aussi de cette aventure donc du voyage, qui est pour lui aussi l'aventure de la langue. D'ici, dans le feu de l'été, dit-il, vous parlez de la langue, de l'aventure des mots, ils sont libres, les mots, ils n'admettent aucune injonction. Et il ajoute, il se méfie de la littérature. Voilà, c'est ça peut-être la vraie vie d'un poète, c'est de se méfier aussi de la littérature, de pouvoir se battre avec les mots comme ça, de pouvoir aimer les mots, mais d'imbriquer ces mots dans une vie, et cette vie de voyage qui dit, lui, vie ordinaire, on voit qu'il y a là une frugalité quand même de vie, une frugalité de moyens de vie, qui est proche de l'ascétisme, mais qui est aussi fait que il y a une concentration extrême sur la vie elle-même, et se concentrer sur la vie à ce point-là, pour un poète, bien sûr, c'est se concentrer sur ce qu'il va faire en même temps, et l'essence même du voyage. Et puis, il n'oublie pas ce qu'est le destin d'un homme. Il dit, oui, la douleur est dans chaque maison. Vous savez cela aussi pour en avoir vécu l'épreuve. Il n'y a là aucune, comment dirais-je, aucun triomphalisme du poète qui serait, grâce à la poésie ou à son talent d'artiste, qui serait libéré peut-être des contingences douloureuses de la vie. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie, l'homme désaffecté. Dans l'homme désaffecté, ce sont des aphorismes que vous allez entendre. Et ces aphorismes, j'avoue, il y a une puissance dans ces quelques mots, dans ces quelques lignes, qui, moi, quelquefois, m'ont paralysé. Par exemple, quand il dit « qui a peur vivra tétanisé ».« Qui a peur vivra tétanisé ». Or, quand il vous arrive de vivre des événements... et que vous avez peur de ces événements, bien sûr, eh bien, oui, c'est vrai qu'on vit tétanisé, et donc il faut arriver à dépasser ça. C'est ce qu'il nous dit Joël Vernet, mais vous voyez, qui a peur vivra tétanisé, point, c'est tout. Ça se suffit. Le drame dont on parlait tout à l'heure, il n'a pas évité, bien sûr, il ne peut pas éviter de parler de la vie douloureuse, puisque il a, comme tout homme de ce monde, l'expérience de la douleur. Et lui, il va plus loin, Joël Vernet. Il dit, le drame est ce qui nous fonde. Pourtant, c'est la joie que nous recherchons, que nous quêtons en vain. Mais chaque fois qu'apparaît un peu de lumière, une ombre étrange la recouvre aussitôt. Voilà. Trois lignes et demie. Et il y a tout ce qui fait peut-être l'énigme de la vie et sa difficulté en définitive, puisque pour lui, donc, ce qui fonde la nuit, l'essence même de la destinée humaine, c'est quand même une destinée dramatique. Et il sait bien que ce que cherche l'homme, et de plus en plus peut-être dans ce siècle où l'hédonisme a une place de plus en plus grande, où il faut à tout prix aller vers le bonheur, il y a des marchands de bonheur à tous les coins de rue dans notre époque, là maintenant, hein, c'est un bonheur presque obligé, hein, si vous n'êtes pas heureux, c'est de votre faute, c'est que vous êtes quelqu'un de méprisable, puisque vous n'êtes pas capable d'être heureux. Et lui dit, pourtant c'est la joie que nous recherchons, que nous quêtons en vain. Mais chaque fois qu'apparaît un peu de lumière, une ombre étrange la recouvre aussitôt. Donc des ténèbres à la lumière, de la lumière à la ténèbre. Un étranger parmi les siens. Avoir vécu, vivre un étranger parmi ses semblables. Un homme sans peuple, sans territoire. Un homme fait de tous les hommes, qui marche cependant en aveugle. Il reprend peut-être là l'idée de Camus, hein. Je suis un homme, pas moins qu'un homme, mais pas plus qu'un homme. Je ne vaux pas plus qu'un autre homme, mais je ne vaux pas moins. Hein, un homme fait de tous les hommes. Jamais une seule voix, la même partition, ce serait trop simple. Mais des millions de voix, des milliards de moi qui chantent à tue-tête, en un seul. L'homme désaffecté, en proie à tous les vents, les nombreuses intempéries, non le conquérant, le vainqueur, mais le vaincu, depuis toujours, à terre avec les siens, à terre, bouche ouverte comme un cri. Il fait l'éloge là peut-être de l'homme anonyme, l'homme ordinaire, qui est un homme, pour lui, il appelle ça l'homme désaffecté. Et ce qui l'intéresse chez l'homme ordinaire, c'est pas le conquérant, c'est le vainqueur, mais le vaincu. Alors il s'intéresse au vaincu, le vainqueur. Donc, c'est pas le vainqueur qui l'intéresse, mais le vaincu, depuis toujours à terre, avec les siens, à terre, bouche ouverte, comme un cri. L'honneur, c'est... Qui est-ce qui avait écrit ça, l'académicien, là, Rouault, qui avait écrit l'honneur des vaincus. Et c'est ce qu'il dit. Joël Vernet, il le rejoint, là, l'honneur des vaincus. C'est le vaincu qui peut-être va nous renseigner beaucoup plus sur l'homme et sur cet homme désaffecté. Parfois, nous n'avons plus la force de nous plaindre, non plus celle d'endurer. Nous ressemblons à l'heure, à ces feuilles que l'automne engloutit. Tous, nous ressemblons à des blessures vivantes, des abîmes, des gouffres, mais nous savons parfois remonter de l'enfer, laissant apparaître un peu de lumière sur notre visage, cette très ancienne fraîcheur qui nous fait tenir debout, vaille que vaille. Qui a peur vivra tétanisé. L'homme désaffecté n'arbore pas de victoire. Il est vidé de tout, sauf du sang des siens, d'un rêve si menu, indicible. L'ignorance est un très haut savoir, car elle est éclairée par deux lumières, celle de la naissance et celle de la mort. Oui, l'ignorance, fût-elle immense, est comblée pour toujours par cette extrême lucidité. Barque sublime sur les eaux de la mémoire, elle n'entre guère dans les conversations, elle ne méprise pas les théories, bien au contraire, mais elle en laisse le soin aux savants. Elle se voue au poème, c'est-à-dire au silence brut qui n'est ni une philosophie, non plus une méditation, qui est peut-être un éclair. Dans ces derniers aphorismes de Joël Vernet, je trouve que vraiment on retrouve ce que nous dit J'aime Sacré. Décidément, il y a vraiment des accointances importantes entre les poètes, sur à la fois la destinée de l'homme, mais aussi L'utilité du poème qui n'est, comme il le dit, ni une philosophie, ce n'est même pas une méditation. C'est cette espèce de d'humilité du poème, mais qui fait sa force, hein, c'est ça tout le paradoxe. Que dit Joël Vernet, que dit aussi James Sacré, ils disent la même chose en définitive sur le poème, cette humilité du poème qui est à la fois cette espèce de précipité de la vie, qui naît de l'expérience de la vie et de l'expérience de la vie, c'est-à-dire celle du poète, c'est la vie lui apprend l'expérience du langage. Et là, Joël Vernet, il ajoute peut-être quelque chose que ne prend pas en considération, peut-être, ou pas de la même façon, James Sacré, c'est, il dit, c'est peut-être un éclair. Donc voilà, là, il y a cette fulgurance, peut-être, de quelque chose qui passe, qu'on saisit, et qu'on saisit, mais qui a la force et à la fois la fragilité, la fulgurance de l'éclair qui est peut-être l'inspiration. Savoir en deçà de tout savoir, l'ignorance à son apogée, proche de l'innocence et peut-être de la bonté de ce qui ne se prononce pas. Voilà. L'ignorance à son apogée, c'est donc on arrive vers l'innocence. C'est ce que on dit de James Sacré, il dit on va vers la naïveté. C'est ça, c'est la même chose. L'innocence et la naïveté, ils se rejoignent là aussi, c'est incroyable. Hein, l'innocence, naïveté, donc chez James Sacré, naïveté venant de. Du mot natif, naïveté, c'est celui qui naît, et l'innocence, c'est pareil, c'est l'innocence du nouveau-né, peut-être donc cette innocence va donner la bonté de ce qui ne se prononce pas, savoir l'ignorance à son approcher. L'homme désaffecté, ton semblable, ton double. Voilà, donc honneur des vaincus, hein, ton semblable, ton double. L'homme désaffecté, ben, c'est toi. Celui qui n'attend plus rien recevra, celui qui prend perdra tout, même ce qui ne lui appartient pas. Incroyable, hein ? Celui qui n'attend plus rien recevra, voilà. Et là, il y a, comment dirais-je, c'est presque un message évangélique. Hein ? Hier, dans l'après-midi ensoleillé, le bonjour de trois coquelicots sur le mur gris d'un cimetière. Quand tu auras suffisamment échoué, que la vie t'aura porté au sommet de l'abîme, que tu auras volé en éclats, qu'exigera-t-on encore de toi ? Dans l'attente, on espère entrevoir l'espérance. Disons, un lendemain radieux, un trait de lumière sous les fenêtres. Mais le gris recouvre le gris et notre fin demeure éternelle. Être brisé de silence, faille dans laquelle s'éboulent nos rochers. En bas, dans cette sorte d'enfer, jouent nos propres démons. Alors, être brisé de silence, hein, c'est un peu la fin ultime du poème. Le silence de Rimbaud aussi. L'écrivain n'est pas l'homme comblé que l'on imagine, mais plutôt l'homme vide, troué, que l'on est en peine d'inventer. Là aussi, humilité totale. Hein. L'écrivain n'est pas l'homme comblé, donc c'est un homme vide. Hein. Quelqu'un, être quelqu'un dans personne, être un seul dans tous, l'épouvantail aux mille voix, le silencieux tonitruant, le clown dans le cirque désert, une fois le public en allé. Et on va retrouver la solitude dont il parlait dans ce long récit que j'ai lu tout à l'heure, cette longue lettre. La solitude, dit-il, ton gagne-pain, cet état dont personne ne veut, vivre avec la pluie, toutes ses larmes en soi. Écrire dans le sommeil du village. Écrire pour rien. Pour cette foudre nous déchirant de part en part, du cœur aux entrailles. Pour personne. Pour ces mille regards abandonnés n'importe où sur la terre. Pour les chiens échappés dans les rues. Pour le chien que nous fûmes, allant la tête basse. Écrire. Pour les vents perdus, les silhouettes passant très, très loin de l'autre côté de l'horizon. On s'abîme dans la parole et dans le silence. Et il interroge donc l'homme, l'honneur des vaincus dont parlait Jean Rouault, et il dit ceci, l'homme désaffecté, deux points, l'immortel. Attention, donc l'homme désaffecté, ça peut être aussi celui qui va devenir immortel. L'intuition, cette rage d'un savoir en deçà de tout savoir. Cette lumière du cœur, cette intelligence du sang, cette chose qui sait se passer de mots, ce regard qui ne cherche même pas à convaincre, l'intuition, notre improbable boussole. Vivre dans l'éclair, le fragment, être un aigle dans son corps. La lassitude, c'est l'élan. Face à la fenêtre, l'attente est une chaise, impassible, vide, l'attente, ce feu, sans silhouette. Et la lenteur, dit-il, c'est ma vitesse. Et puis, voici ce qu'il dit sur... par exemple, les grandes voix comme celle de J'aime sacré. Les grandes voix, les voix justes, sont cachées dans la vie ordinaire. Elles vivent sans éclat au plus près du réel, de ce qui les écorche. Elles sont un soleil pour nos yeux passagers. Rebelles sans médaille, elles revivifient tout. On ne leur dressera plus tard ni tombeau ni couronne, mais elles sont bien le sang de cette terre, sa plus haute cime. L'homme désaffecté, ton semblable, qui mélangera tous les pronoms personnel. Voilà, j'ai lu des extraits et nous devons rendre l'antenne. Alors, à lire absolument, Joël Vernet, Marcher est ma plus belle façon de vivre, notes éparses aux éditions La Rumeur Libre. Le livre vous coûtera 16 euros. À la semaine prochaine, à 17h.